Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaré et Alain Bozetti sur BFM Radio.
Bonjour, bienvenue BFM Academy chaque semaine sur la radio de l'écho. Vous le savez, deux créateurs d'entreprises qui s'affrontent pour vous. Et vous les départagez en fin d'émission en allant sur le site de la radio. C'est du e-vote, c'est du vote en ligne. Ils seront 56 au total à venir sur l'ensemble de la saison. Mais vous le savez, il y aura une grande finale au mois de juin. Et là, il y aura un vainqueur à lauréat comme chaque année. Et ce lauréat gagnera une campagne de communication pour son entreprise sur BFM, la radio de l'écho. Voilà. Vous savez tout et j'ai le plaisir d'être avec F. Chégaré. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Coach d'entrepreneur et de décideur et avec Alain Bozetti. Bonjour Alain.
Bonjour Nicolas.
Il
bonjour à tous.
Président de Planète Micro-Entreprise, organisateur de nombreux salons. Alors le prochain des salons, ce sera celui des services à la personne, les 25, 26, 27 novembre 2010, porte de Versailles à Paris, pavillon 6, entre 10h et 18h.
Vous avez tout dit.
Bon, et il est aussi.
Si on cherche la perle rare ou du boulot dans le secteur ou créer sa boîte dans le secteur, c'est le salon auquel il faut aller.
Et le précédent, c'est celui des micro-entreprises.
Micro-entreprises.
Une ruche incroyable. Je suis passé là-dedans.
Et oui,
vous allez sur des salons, vous savez, des salons professionnels, c'est feutré. Là, ça bouge. Il y a des gens qui causent partout.
Et enfin, c'était la grève en plus.
Et c'était la grève. Non, extraordinaire. Il y a une espèce d'ambiance rafraîchissante, voilà, quand on va dans ce genre d'endroit. Avec nous, deux créateurs d'entreprises comme chaque semaine, ça c'est la règle du jeu. Je vous les présente dans un instant. On va commencer avec l'humeur du coach et l'humeur du chef d'entreprise. Alors allons-y, F. Chégaré.
Elle est bonne, l'humeur, comme souvent. Je voudrais vous donner des nouvelles du réseau Entreprendre, qui est un réseau qu'on croise souvent de par les entrepreneurs que nous recevons ici. J'ai eu le plaisir de participer à la biennale du réseau Entreprendre, qui se tenait à Biarritz la mi-octobre. Et je voulais vous parler, juste vous faire part d'une conférence qui était absolument géniale. Il y a eu une séance inaugurale avec... en particulier des philosophes, des économistes, des sociologues, etc. Que du beau monde bien senti qui, en plus, n'était pas d'accord. C'était plutôt sympa. Et il y a eu cette réflexion qui m'a beaucoup intéressée par rapport à la notion de croissance. Il y avait une femme chef d'entreprise qui disait qu'elle allait essayer de créer de la richesse et que dans richesse, chacun met ce qu'il veut et ce qui est précieux pour lui. Et voilà, j'ai trouvé ça très inspirant et j'avais envie de vous le raconter.
Juste un mot sur Réseau Entreprendre. Hein. Il faut vraiment savoir ce que c'est parce que c'est assez extraordinaire, même s'ils sont assez peu connus. Il y a un côté boy scout de l'entrepreneuriat, véritablement. Ce sont des chefs d'entreprise qui bénévolement accompagnent des jeunes entrepreneurs avec toujours l'idée que les projets qu'ils vont soutenir sont des projets qui doivent être créateurs d'emplois, c'est très important, et ils vont jusqu'à accorder des prêts d'honneur. Enfin, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses, malheureusement assez peu publiées. Allez-y, Alain Bozetti.
Moi, j'étais frappé par un chiffre, c'est les 200 000 centenaires en 2060.
Ça tombe pile poil pour créer la cinquième branche de la sécurité sociale.
Exactement.
Dernier chantier de Sarkozy.
Exactement.
Hein. Clôt les retraites et claque, on va s'occuper de la dépendance. Le droit à l'autonomie pour les cacochimes, vous allez voir, ça va être génial.
Alors, j'ai regardé justement combien étaient nés en France de personnes entre 1950 et 60. Il y a eu 10 millions de Français nés en 150 et 60. Donc ça veut dire qu'il y a 2% de ces 10 millions qui seront centenaires en 2060. Qui seront ces 10 millions? Je fais partie de ces 10 millions. Voilà, qui sera faire partie de ces 2%? Et je voudrais faire le lien avec la salon des services à la personne. Nous y créons la maison du futur des services à la personne, avec entre autres un ensemble de technologies pour permettre le fait de garder à domicile sereinement le maximum de centenaires.
Si les chiffres de l'INSEE sont justes, on en a 15 000 aujourd'hui, 200 000 en 2060. Vous allez avoir du boulot avec les services. Il faudra faire deux salons par an.
On le sait peut-être pas, mais on va peut-être tous ici être client de la maison du futur.
On parle trop. J'accueille tout de suite Édouard Chalmel du Rosier, bonjour.
Bonjour.
Et Léonard Briotte de la Crochet, bonjour.
Bonjour.
BFM Academy 2011. Uniquement sur BFM Radio.
On a grillé deux minutes déjà avec nos blablas. Je vous jure, si, ça va, on parle beaucoup trop.
Mais c'est tellement pertinent.
Allez, Édouard Chalmel du Rosier, je vous parle de son entreprise dans un instant. Qui est-il, F. Chégaré?
Édouard, vous avez 27 ans, vous êtes installé à Paris dans le 17e. Un seul objectif pour vous, entreprendre. Vous trouvez quand même le temps de faire un master en finance à l'école de management Léonard de Vinci, entre 2004 et 2008. À travers vos stages, vous tentez à l'époque de réaliser votre projet, reprendre une entreprise et dans le monde du bâtiment. Premier stage dans une entreprise de peinture, un mois ouvrier, un mois aux côtés du patron. En 2007, vous travaillez pour la Fédération française du bâtiment. En 2008, votre stage de fin d'études vous amène 6 mois à Moscou comme conducteur de travaux sur un gros chantier. Intéressant, mais vous êtes obligé de constater que gérer des ouvriers du bâtiment à 25 ans, ça va pas être possible. En tout cas, pas tout de suite. Changement de projet donc, quelques mois dans le conseil chez Antalya et surtout quelques mois brainstormer avec votre ami de toujours, Jean Sudre, et son grand frère Renaud. Fin 2009, Jean quitte l'OFUP, son employeur, Renaud quitte SFR, et tous les trois vous montez Buy Art.
Alors, Buy Art, c'est du leasing d'œuvres d'art pour les entreprises et les professions libérales. Il y a une adresse web, www.buy-art.com. Comme Buy, c'est B-A-I-L, hein. C'est pas Nathalie Buy, on est bien d'accord. Donc vous vendez, hein, c'est ça, des œuvres d'art, Edouard Chalmel-Durosé, vous vendez des œuvres d'art et du mobilier pour les entreprises selon la logique des solutions de leasing.
Exactement.
Mais l'idée, c'est bien qu'à terme, on est propriétaire. Hein.
Exactement.
C'est pas de la location longue durée comme la voiture, où éventuellement, on ne sera jamais propriétaire de la voiture. Là, on va être propriétaire.
Exactement, c'est notre objet, c'est-à-dire qu'on est parti de la passion de l'objet et la volonté d'acquérir. Donc c'est bien l'objectif.
D'accord.
Final,
donc,
c'est d'acquérir.
Vous mettez trois points forts en évidence sur le site. D'abord, le paiement des achats est allé sur plusieurs années, la défiscalisation au moyen des loyers du leasing qui sont déductibles du résultat imposable et l'acquisition de mobilier d'art à moindre coût au final. Bon, il y a un exemple, vous faites un petit tableau, un objet d'une valeur de 10 000 euros, si je l'achète 10 000 euros, je l'ai payé 10 000 euros et 10 000 euros. Voilà. Et si je passe par une solution de leasing, notamment celle qui m'est proposée par Buy Art, eh bien, à l'arrivée, j'ai économisé 1107 euros. C'est grâce, c'est ça, aux économies d'impôts qu'on réalise sur les mensualités.
Exactement. Ben...
Oui, parce que là, j'ai rien compris, honnêtement.
Oui, c'est normal. Alors... que vous n'ayez rien compris, parce qu'il, oui, va nous, parce qu'il va nous expliquer.
Ah, d'accord.
Voilà, il est là pour ça. Hein.
Exactement. Alors, mécaniquement, alors comptablement, une œuvre d'art ne peut pas être amortissable. Du coup, on ne peut pas récupérer d'aucune sorte son investissement. On a pensé au leasing comme solution de sortir du bilan, de rentrer dans le compte de résultat et de diminuer mécaniquement le résultat imposable de l'entreprise et du coup de défiscaliser un tiers de l'acquisition, enfin un tiers des mensualités.
Voilà, parce que si on fait 36 mensualités à 370 euros pour l'œuvre à 10 000 euros, on arrive à 13 000 et quelques.
Précisément.
Mais 13 320, mais... comme ça. Mais au final, on gagne en fait 1107 euros.
Exactement. 1107 euros. Puisqu'un tiers de cette acquisition était déductible du résultat imposable.
Ça sera pas raboté comme niche fiscale, ça.
Alors, c'est pas une niche fiscale, c'est l'avantage. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'aucun avantage, d'aucun aménagement de la fiscalité. C'est simplement les règles comptables qui sont ainsi faites. Donc, ça n'a pas vocation à changer.
Ça veut dire qu'un caprice du ministre de l'économie ou du ministre du budget ne va pas changer votre business model.
Non, comme il ne changera pas le business model du leasing des voitures qui fonctionne à peu près de la même façon. Donc c'est en aucun cas, en aucune façon, une niche fiscale.
Alors vos clients sont des entreprises et des professions libérales, vous en avez 19 aujourd'hui. Le pédigré du client ou de la profession libérale, c'est le toubib qui veut avoir une belle œuvre d'art dans sa salle d'attente.
L'un des intérêts, c'est qu'on rencontre plein de monde et plein de monde différents. Alors on aura justement le médecin passionné, collectionneur de tel ou tel objet. Je pense à un de nos clients qui collectionnait du Jean Prouvé, qui voulait refaire sa salle d'attente avec que du mobilier de Jean Prouvé, et donc qui a fait appel à nous pour trouver les objets, trouver les œuvres dont il avait besoin.
Ah, il faut les trouver, oui.
Exactement. Alors ça, on sait faire. On a plein, toute une palette de services pour accompagner les chefs d'entreprise dans leur acquisition. Et donc ce collectionneur, nous avons juste cherché l'œuvre et monté le dossier de financement. Par ailleurs, on a d'autres clients qui nous disent: je voudrais une toile à tel endroit. Alors, à nous de l'accompagner dans le choix, savoir ce qu'il veut, quel univers peut l'attirer, et trouver avec lui l'objet qui décorera son bureau et
très vite, vous allez être en contact réel avec vos clients.
Directement.
Voilà. Il y a effectivement sur le site, il y a toute la petite procédure là, c'est assez bien fichu. Voilà, d'abord un entretien, hein, donc on n'est pas simplement dans la relation internet, puis une proposition estimative, une proposition détaillée, la contractualisation et l'installation. Et on vous paye quand?
Alors, on nous paye en mensualité.
C'est les mensualités, d'accord. Les mois, d'accord. Il n'y a pas au départ un forfait, une couche à l'entrée. Donc,
si j'ai bien compris, c'est vous qui avancez l'argent. C'est vous qui achetez.
Alors non, nous sommes en partenariat avec des organismes financiers sur lesquels on s'adosse.
L'acquisition.
Exactement, et qui financent l'acquisition. On est l'intermédiaire entre ces organismes financiers et le client.
Et qu'est-ce qui
client.
Vous garantit que le dossier est accepté?
Alors c'est justement là que les organismes financiers nous ont fait confiance. C'est-à-dire qu'en amont, on fait un petit peu d'ingénierie financière pour vérifier la solvabilité de chaque client. Et voilà, c'est en ce sens-là que
les...
Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'ingénierie financière c'est les belles, la formule. On fait de l'ingénierie financière pour vérifier la solvabilité de chaque client.
Et alors, c'est un scoring des clients?
Oui, c'est ça. Enfin, on sort les quelques ratios connus pour vérifier la solvabilité des clients et voir. Enfin, c'est un petit travail amont que l'on fait.
Vous n'avez pas fait avoir pour l'instant?
Pour l'instant, non. Alors, l'entreprise n'a qu'un an.
Oui, octobre 2009, c'est. Bon, je suis allé voir, quand je suis allé voir sur le site, il y avait 10 meubles, 23 photos, 19 toiles et 10 sculptures. C'est à peu près le.
Voilà, c'est, voilà, c'est les propositions que nous avons faites. Alors, on n'a pas tout mis.
Mais par contre, si je viens vous voir et si je vous dis, je veux avoir un bronze hôtel, vous allez vous démerder pour me le trouver.
Exactement. Alors, ce qu'il y a sur le site, ce ne sont pour l'instant que des références de choses que nous avons présentées ou vendues. Mais ça constitue en rien un catalogue.
D'accord, c'est pas
on
un
est capable
catalogue.
D'offrir okay. à n'importe quel objet qui est disponible sur le marché de l'art. Et même le marché caché, parce qu'on connaît les réseaux pour aller les trouver. Le
comment caché. Trouvez-vous vos clients? Comment vos clients vous trouvent-ils?
Alors, il y a un travail que tout entrepreneur connaît qui est long et difficile au départ, c'est-à-dire qu'on fait de la prospection en dur pour aller chercher le client.
Alors, c'est qui le fait concrètement?
Tous les trois, on est trois associés et tous les trois prenons
donc
notre
téléphone. Donc les deux sudres et le chalmel du rosier qui vont taper aux portes.
Exactement.
D'accord. Les deux sudres. Mais qu'est-ce qui vous a... Bon, j'ai bien vu que vous aviez eu des tentatives dans le monde du bâtiment, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes compétent dans cet univers-là?
C'est la question que j'allais poser, parce que dans les points forts, vous mettez une connaissance du monde de l'art. Il y a un cadre sur les trois, là.
Exactement, il y a un cadre, Renaud Sudre.
C'est le grand frère de
la famille. Exactement, c'est l'homme âgé de la bande, parce qu'on est plus jeunes les deux autres. Et Renaud connaît le domaine et le monde de l'art. On a tous les trois passionnés.
Il le connaît comment, le domaine? Sa compétence, il la tient d'où?
Alors, sa compétence vient de sa culture et de sa passion. On a tous les droits à une passion, et lui, plus affirmé et plus référencé, plus
d'années
documenté.
Au compteur.
Exactement. Et donc, voilà. Et en revanche, on n'est pas expert de tous les domaines. Donc, on est en partenariat avec un certain nombre d'experts qui sont capables, pour telle ou telle pièce, de les certifier ou de nous aider, nous accompagner dans la recherche, parce qu'on n'a pas prétention à être.
Quelques années, il me revient que dans BFM Academy, on avait reçu Karima Issad, qui est une jeune femme qui avait monté Lock Art.
Oui,
et je crois que c'était un petit peu la même chose. Ça vous dit quelque chose comme étant une de vos concurrentes?
Alors, un tout petit peu, mais c'est très différent parce que nous, il y a vraiment l'idée de la passion de l'objet et de l'envie d'acquérir les objets.
Elle prend les vestes.
Exactement. Enfin, je veux pas, je veux surtout pas.
Elle les aime pas, les objets.
Voilà, la location en général n'a pas les mêmes vertus que nous.
D'accord, parce que l'acquisition.
Oui, exactement.
Bah, un beau coup que vous avez réalisé depuis octobre 2009. Le truc où vous vous êtes dit, c'est bon, on est sur le bon créneau, ça va cartonner.
Alors, il y a deux exemples, alors qui sont en cours, qui sont pas signés, mais il y a un hôtel à Val Thorens qui veut redécorer entièrement l'espace avec du mobilier design, des œuvres d'art, et qui font appel à nous pour la recherche, le conseil et le financement au final. Donc là, déjà, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Et le deuxième exemple...
Juste il n'ose pas le dire, non, parce que c'est pas encore
le deuxième
signé.
Exemple, c'est un grand groupe qui veut, pour le hall d'accueil de son musée, une œuvre monumentale signée d'un grand nom, et qui nous a mis sur le coup pour trouver un designer...
Mais faire concurrence, alors là.
Oui, c'est ce que j'ai demandé.
Non, on a pour l'instant...
Créer la pièce, là.
Oui, créer la pièce avec un grand nom du design, donc qui serait un Zaha Hadid, ou un Porzampar, ou un Ron Arad, donc un grand nom.
BFM Academy 2011, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Voilà, donc le premier candidat cette semaine est Edouard Chalmel-Durosier avec Bail Art, le leasing d'œuvres d'art pour les entreprises et les professions libérales. C'est du luxe quand même. Hein.
Quoi
Bail Art.
Sans peur. Voilà.
Oui, c'est pas mal. On va marquer une pause. On va faire la connaissance de Léonard Briotte dans un instant. À tout de suite.
BFM Weekend. Chaque week-end, l'économie voit rouge sur BFM Radio. Chine Hebdo, Mathieu Jolivet.
La gestion de l'eau en Chine, c'est un enjeu majeur. 20% de la population mondiale est chinoise, mais Pékin n'a que 7% des ressources d'eau potable. Alors comment la Chine gère-t-elle cette problématique? Une mauvaise gestion de l'eau peut-elle stopper net le développement économique de la Chine? Décryptage dans Chine Hebdo, samedi à 18h et dimanche à 7h.
Chine Hebdo avec Mathieu Jolivet. Franchissez la grande muraille de l'écho sur BFM Radio.
Dans mon métier, je suis très souvent en déplacement. Mais je dois pouvoir joindre mes clients, traiter leurs demandes et leur consacrer le temps qu'il faut. Je dirige une agence immobilière.
Et moi, je suis conseillère pro chez Orange.
Chez Orange, nous avons le sens du service, comme vous. Avec Performance Pro, vos appels, vos mails et Internet sont en illimité sur votre mobile et sur votre PC en 3G+, avec Performance Pro Everywhere. Pour plus d'infos, prenez rendez-vous en boutique sur orangepro.fr ou appelez le 1016, appel gratuit depuis une ligne fixe France Télécom. Offre soumise à conditions réservées aux professionnels en métropole.
Orange.
Vous
êtes restaurateur ou hôtelier, rendez-vous sur Équipe Hôtel Paris. 1500 exposants regroupent pour vos établissements toute l'offre cuisine, déco, aménagement, technologie, spa, salle de bain. À ne pas manquer cette année, l'espace nuit. BFM Radio vous invite à rencontrer les plus grands chefs et architectes sur Équipe Hôtel du 14 au 18 novembre à Paris, Porte de Versailles. Plus d'informations sur www.equipehotel.com.
BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaré et Alain Bozetti sur BFM Radio.
Et après, Edouard, voici Léonard. C'est joli quand même. Léonard Briotte de la Crochet, allez-y.
Léonard, vous avez 39 ans, vous êtes basé à Paris, vous aussi. Alors, vous sortez de Sciences Po en 94, vous entrez dans un cabinet de lobbying, on n'en saura pas plus. Vous passez une année à l'ambassade de France au Maroc et une autre année à faire des montages de financements internationaux. Puis vous entrez chez Michael Page International en 99. Donc là, nouvelle ouverture, vous y resterez 8 ans. Directeur de la division finance à partir de 2004, si je me souviens bien, vous gérez 15 personnes. 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vos interlocuteurs sont bien sûr les DRH, les DAF, encore les DG. Petit à petit, vous vient l'idée de créer votre propre cabinet de recrutement. Ce sera fait début 2008 avec ABAC, A-B-A-Q, spécialisé dans les postes de direction financière. Et puis parallèlement, vous constatez que réussir à recruter, c'est bien, mais vos clients ont évidemment besoin d'optimiser aussi leurs évaluations annuelles ou encore leur processus de mobilité. Il y a quelque chose à faire. Le projet Caméa se monte avec Cédric Hoguel, passé par Michael Page lui aussi et BNP Paribas avant. Il apporte son sens de la relation client. Et puis le monsieur web du trio, eh bien c'est Alexis Perrier qui vous rejoint également dans cette aventure.
Caméa.com, Q-A-M-E-H-A.com. Voilà, ça c'est donc l'adresse internet. Alors on va faire un petit exercice, Léonard Briotte, assez particulier, parce que j'ai tout simplement absolument pas compris ce que vous faites. Je commence et après je vais vous laisser la main. Donc Caméa vend une application internet pour la gestion des ressources, des processus de ressources humaines. Je crois que jusque-là, bon, c'est bon. Et vous présentez ça comme une application pensée à la manière d'une application grand public. Et il y a trois domaines, le recrutement, la définition du poste, l'intégration du candidat, il y a l'évaluation des collaborateurs, il y a la mobilité. Alors chaque fois, vous allez mettre en avant des arguments, le gain de temps, le gain d'efficacité, la solution complète, le tout en un, la simplicité, on donne du sens, une réponse adaptée aux besoins. Alors j'ai effectivement la conviction que votre produit a sûrement quelque chose d'innovant, mais je n'arrive toujours pas à me dessiner dans ma tête ce qu'est Caméa. Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est du cloud computing? Est-ce que c'est de la sous-traitance de ressources humaines? Je me mets à la place du DRH qui est branché sur BFM le week-end, qui entend ça, avec ce que je viens de lui dire, où j'ai à peu près l'impression d'avoir dit l'essentiel, je pense qu'il est paumé. Alors éclairez sa lanterne, le DRH qui nous écoute. Qu'est-ce que vous lui proposez?
Bon alors, vous avez tout dit.
Mais non, j'ai rien dit parce que j'ai rien compris.
Vous avez tout dit, peut-être dans le désordre.
Mais vous n'êtes pas DRH, mais moi j'ai été DRH, j'ai tout compris.
Ah bah voilà, bon bah écoutez, je vais me coucher.
Moi je confirme, j'ai regardé votre site avec attention hier et j'ai vraiment dû me creuser la tête pour essayer de comprendre quelles étaient les prestations réelles.
Je vais vous voyez cette feuille, Léonard, normalement dans le carré en haut là, je mets l'espèce de pitch que moi je vais utiliser pour résumer en une phrase votre entreprise. Jamais depuis la création de BFM Academy, j'avais laissé un blanc. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si je dis que vous avez une application internet de gestion de ressources humaines, pour moi ça veut rien dire. Ouais. Si je croise un copain DRH dans la rue, je suis incapable de lui expliquer en une minute que j'ai reçu un type génial qui fait un truc incroyable parce que je suis pas capable de lui expliquer ce que vous faites.
Alors, vous savez quoi? En fait, Léonard va nous raconter le quotidien d'un DRH qui est son client. Que fait-il quand
non,
il
non,
arrive
non, 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 moi c'est l'outil.
Je vais juste répondre. Non, mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. C'est parce que c'est super compliqué qu'on avait besoin de caméra. Ça, c'est le premier point.
C'est pas mal. C'est un bon début.
Bah,
c'est dialectique.
Non, c'est
bien fichu.
Le deuxième point, vous avez également tout dit en disant que, en effet, c'est une application internet, donc c'est un outil. Comme un logiciel, sauf que ça passe par le web. Donc là, vous aviez raison.
Donc on est en cloud computing.
On passe aussi par le cloud computing, même si ce n'est pas nécessairement lié. Donc oui, c'est comme un logiciel, c'est un outil informatique.
Un outil informatique.
C'est un outil informatique qui est une application Internet. Donc on passe par l'Internet et il se trouve qu'on utilise aussi le cloud computing, même si d'ailleurs, ça n'a rien à voir. On pourrait très bien ne pas le faire. Bon, alors, un outil informatique.
Donc vous vendez cet outil.
On vend cet outil.
D'accord.
On vend un droit d'utilisation de l'outil et tous les ans, l'entreprise qui l'utilise paye ce droit d'utilisation. Alors à quoi elle sert ?
Elle l'implante dans son...
Elle n'a pas besoin de l'implanter puisque justement c'est Internet, c'est comme Viadeo, c'est comme Facebook, c'est comme ce que vous voulez. Vous avez un login, un mot de passe. Chaque utilisateur dans l'entreprise a sa vue sur l'outil en fonction de ce dont il a besoin.
Et il y va quand il veut.
Et en fonction des droits d'accès qu'il a.
Et en fonction des droits d'accès.
Ça, j'avais cru comprendre qu'effectivement, il y avait la possibilité.
Alors, j'ai juste quand même essayé de revenir, puisque vous avez si mal compris à quoi ça sert. Je suis sûr que vous trichez.
Mais bien sûr, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais honnêtement, je vous jure que les gens qui écoutent, dites-vous bien qu'il y a des gens qui ne savent pas que vous existez, les
Renards. Oui, bien sûr.
Mais les caméras, ils ne savent pas que ça existe non plus.
Le point de départ, vous l'avez dit, Ève, c'est s'apercevoir que recruter, c'est compliqué. C'est pas uniquement de l'intuition, c'est pas uniquement trouver la bonne personne. C'est un bon process. Bon. Et donc, parti d'un point de départ qui est le cabinet de recrutement, il y a eu cette idée, on va aider l'entreprise à mettre en place partout, sur tous ses sites, le bon process de recrutement. Et puis au passage, on l'aide dans la partie administrative de la gestion du recrutement, on lui fait gagner du temps, etc. Mais surtout, l'apport principal, c'est le bon process partout dans l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et puis, on s'est aperçu, en parlant à nos futurs clients, que ce process-là, qui était important pour que les ressources humaines soient performantes, c'était pas le seul. On s'en doutait un peu, mais on s'est aperçu que avoir une gestion du management par les objectifs, et donc en passant par les entretiens annuels d'évaluation, c'était important. Et ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est super compliqué. Faire des entretiens annuels dans une entreprise...
Le rendre simple et fluide et automatique, c'est compliqué.
Et puis que ça serve à quelque chose, c'est compliqué. Et enfin, on s'est aperçu que, puisqu'on savait faire rentrer avec un bon processus de recrutement des candidats dans l'entreprise, puisqu'on savait repérer les meilleurs...
On savait les faire sortir.
On allait essayer de les garder. Et une des clés de la rétention, c'est la mobilité. Alors bon, je sais pas.
Question qui n'est pas disponible
le bougisme.
Aujourd'hui.
Pas pour l'instant.
Ah non,
pas
pardon,
pour l'instant.
Pas
donc
pour l'instant.
Le DRH va utiliser cet outil tous les jours, à tout moment, pour tout type, pour le recrutement, pour les questions d'évaluation, pour les questions de mobilité dans l'entreprise,
surtout,
ou hors de l'entreprise.
Surtout, ce que permet Caméa, c'est que c'est pas seulement le DRH qui va utiliser l'outil. C'est tous les opérationnels potentiellement impliqués dans ce sujet de ressources humaines. Allez-y, Eve,
donc le DRH en fait va faire bosser les opérationnels et va partager la fonction RH comme on dit qu'elle le devrait depuis 20 ans en leur donnant les moyens de le faire simplement.
Exactement, et en fait c'est le seul et c'est le premier outil qui permet ça, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des outils qui étaient d'ailleurs pas forcément tous, enfin différemment performants les uns des autres, mais qui étaient concentrés pour l'équipe RH. Caméa, et ça c'est vraiment une évolution générationnelle, ça permet au directeur de centre de profit, au manager qui a une équipe de 3 personnes, et ben de faire de son boulot de manager qui a une application RH avec cet outil qui lui guide. Il y a un de nos clients qui nous dit, on peut pas se planter, il le dit pas comme ça, mais on peut pas se planter parce que l'outil nous guide et nous alerte quand on va dans le mur.
Oui. Tout ça pour le recrutement. Si on rentre des infos qui sont absurdes, il y a un warning, il y a quelque chose.
C'est plus que ça. Je parlais du process de recrutement tout à l'heure. Justement, parfois on est dans un bon process, parfois on est dans un mauvais process. Je suis DRH, je suis un pro du recrutement, c'est comme ça, c'est moi qui ai acheté l'outil. Mais je ne sais pas exactement quelle est la qualité de recruteur de mon directeur de site à Marseille. Alors, ou bien je fais tout moi-même. Il peut utiliser Caméa pour faire tout lui-même d'ailleurs. Caméa peut servir à tout centraliser ou tout décentraliser, selon qu'on le veut. Mais je peux aussi dire, justement, c'est mieux si le patron du site de Marseille fait bien son recrutement lui-même. Et là, non seulement moi, j'ai un tableau de bord qui me permet de suivre, de faire des focus, etc. Mais lui, si l'outil sent qu'il y a un vrai dérapage dans le process...
Comment l'outil peut-il sentir ?
Ah, parce qu'il a un... Vous vous souvenez des avions renifleurs ? Pareil. Ça marche aussi bien, d'ailleurs. C'est un outil qui a du nez.
Sous ton levain.
Alors, il y a du quantitatif, il y a du qualitatif. Alors, le quantitatif. Et là, c'est mon expérience de directeur d'une division Michael Page. Quand j'avais X consultants qui avaient 10 jobs chacun à traiter en même temps, il fallait très très vite que je puisse me dire « Ouf, il faut que je creuse cette mission ». Là, c'est purement du quantitatif, c'est tiens, alors je prends un exemple idiot, on a reçu 5 CV alors qu'on a passé 10 annonces. Là, c'est un exemple idiot. Un exemple un peu plus compliqué. Le consultant a reçu 0 candidat. Je m'inquiète, mais pour d'autres raisons. Le consultant a reçu 15 candidats, mais il en a présenté 2 à son client ou à son manager. Ah ben là, je suis dans un ratio inquiétant. Alors, ça peut être une correspondance de ratio de temps, de etc. C'est toute une panoplie d'indicateurs qui peuvent être quantitatifs, si on a le temps on reviendra sur les qualitatifs, qui vont faire dire attention, ça part dans le mur.
BFM Academy 2011, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Il est fort parce qu'il avait compris que la pendule était au taquet déjà. Hein. Ici, on a le temps, on y reviendra. C'est assez bien vu. Donc, Léonard Briotte avec Caméa. J'espère que vous y voyez plus clair. Caméa.com. Ça fonctionne, Caméa.com. Ça y est, c'est...
ça marche à fond.
Caméa, ça veut dire?
Alors, Caméa, c'est un roi d'une île pacifique qui a été extrêmement fédérateur. Et c'est un peu le boulot du DRH, non?
À tout de suite.
BFM Weekend.
Sur bfmradio.fr, écoutez ou réécoutez tout BFM Radio, la radio de l'écho.
Les gens sont résignés. Ils savent qu'il va y avoir un certain nombre de choses.
Ça veut dire que des Français aujourd'hui ne peuvent pas acheter. Le ménage moyen de cadre ou d'agent de maîtrise ne peut pas acheter.
bfmradio.fr, abonnez-vous au podcast et téléchargez gratuitement toutes les émissions de BFM Radio.
On regarde ce sommet d'hier avec nos yeux de vieux riches. Je pense que fondamentalement, c'est pas très important.
Voyez-vous, je crois aussi au discours et je crois au danger du discours.
Là-dessus, eh ben, il y aura une partie en fonds propres, il y aura une partie en emprunt, il y aura une partie en autofinancement.
Ils ont très envie que le projet réussisse, donc c'est quasiment des partenaires stratégiques.
BFMradio.fr, tout BFM Radio en direct.
C'est l'effet papillon, nous sommes dans une économie réglée au millimètre près, mondialisée, et qui évidemment peut être totalement détraquée par un tout petit grain de sable.
Sur BFMradio.fr, en live ou en podcast, BFM Radio. Toutes les coups, quand vous voulez.
Tout a commencé quand il a voulu prendre son thé à 5h pile, tous les jours. Ensuite, il a demandé des butter cookies et une tasse avec le drapeau anglais. Ce n'est pas tout. Il a accroché un portrait de la reine dans notre chambre à coucher. Qu'est-ce que je vais faire ce soir quand il va rentrer avec sa crête vert fluo?
Dites-lui qu'aujourd'hui, la Mini One est à partir de seulement 14 900 €. Ça va le calmer.
Merci.
La Mini One à partir de 14 900 €. Et nos meilleures offres de financement 2010 sont à découvrir sur mini.fr. Offre valable chez les concessionnaires Mini participants pour toute Mini One en stock. Commandez et livrez avant le 31 décembre 2010.
BFM Weekend, midi 30. Les infos, Jérôme Tichy.
Avec la libération il y a moins d'une heure de Aung San Suu Kyi, l'opposante numéro 1 à la junte au pouvoir en Birmanie a en effet recouvré la liberté aujourd'hui après plus de 20 ans d'enfermement ou d'assignation à résidence. C'était le cas depuis mai 2003. Elle vient à l'instant d'apparaître aux grilles de sa maison, maison autour de laquelle environ 2000 personnes dont de nombreux journalistes sont massés pour tenter de récupérer les premiers mots de Aung San Suu Kyi qui est âgée de 65 ans et qui, je vous le rappelle, avait obtenu le prix Nobel de la paix en 1991. Ses premiers mots officiels devraient être, on vient d'apprendre, pour demain à la mi-journée. Et puis, dernière information sur ce dossier, le président Nicolas Sarkozy qui à l'instant met en garde les autorités birmanes contre toute entrave à la liberté de mouvement et d'expression de Madame Aung San Suu Kyi, estimant que cela constituerait un nouveau déni inacceptable de ses droits, communiqué donc il y a quelques secondes de l'Élysée. Deuxième grand titre de l'actualité, un pompier légèrement blessé par balle au bras hier soir à Grenoble lors d'une intervention sur des feux de voiture. Un véhicule de police a également reçu des impacts de balles. Les faits se sont produits dans le quartier sensible de la Villeneuve, là même où de violents incidents avaient éclaté cet été. C'est lundi à Tours qu'aura lieu l'autopsie du corps du petit Christopher, cet enfant de 9 ans retrouvé mort hier dans les eaux de la rivière Eure, en Eure-et-Loir. Il s'était enfui du foyer où il résidait, c'était il y a une quinzaine de jours. La chute accidentelle dans la rivière semble pour l'instant l'hypothèse la plus probable. L'explosion d'une moto piégée ce matin sur un marché dans le nord de l'Afghanistan, bilan 8 morts et 18 blessés. J'ajoute que le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, est à Kaboul pour une visite de 3 jours avec notamment une rencontre avec le président Hamid Karzai. Toujours à l'étranger, nouveau bilan de l'éruption du volcan Merapi qui a débuté le 26 octobre dernier en Indonésie. Bilan qui s'établit désormais à 240 victimes. Un mois d'économie avec 3 nouvelles faillites bancaires ce week-end aux États-Unis. 146 établissements au total ont mis la clé sous la porte depuis le début de l'année. C'est déjà plus que sur l'ensemble de 2009. Retour en France avec l'actualité politique et bien sûr les tractations qui vont bon train ce week-end à l'Élysée et à Matignon pour préparer le futur gouvernement qui devrait être annoncé lundi. Et puis à Lyon, la fusion aujourd'hui des Verts et d'Europe Écologie en un seul mouvement dont le nom n'a pas encore été révélé. 3 départements sont placés en vigilance orange jusqu'à demain 6h. Il s'agit du Nord et de l'Aisne pour d'éventuelles crues et du Morbihan où de fortes pluies sont en cours depuis quelques heures maintenant. Fortes pluies en cours également en Belgique où le périphérique de Bruxelles, le Ring a dû être fermé ce matin dans sa partie sud en raison d'importantes inondations. On en vient au sport avec du football. La 13e journée de Ligue 1 ce week-end, 7 matchs dès aujourd'hui. Le leader Brest reçoit Sochaux et Marseille 4e reçoit Lens. À suivre également le match entre Montpellier et Toulouse. Enfin, mot de tennis avec les demi-finales du Master 1000 de Bercy. 2 Français sont encore en lice. Mickaël Jödra qui jouera tout à l'heure contre le Suédois Söderling. Et puis ensuite, Gaël Gaël Monfils affrontera Roger Federer. Merci d'écouter BFM Radio, il est 12h33. Jusqu'à 13h, voici la suite de BFM Academy 2011, toujours en compagnie de Nicolas Dose.
BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaré et Alain Bozetti sur BFM Radio.
Alors j'en profite pour vous rappeler que chaque semaine, le making-of, enfin les coulisses de cette émission sont habilement filmées par TV Pro. Ils ont un site, TV Pro, tvpro.tv, TIVIPRO.TV. Voilà, spécialiste du film professionnel. Il y a plus de 15 000 interviews et vidéos d'entreprises et professionnels qui sont visibles sur leur site. Et donc, ils réalisent toute cette saison le making-of de l'émission, ce qui vous permet de voir un petit peu la tête des gens pour qui vous allez voter en fin d'émission.
BFM Academy 2011, la mouche du coach.
Oui, c'est toujours agréable de pouvoir mettre une tête sur Édouard Chalmel-Durosier.
Achetez-vous une œuvre d'art à Édouard.
Voilà, bon, je vous rappelle, Buy Art, le leasing d'œuvres d'art pour les entreprises et les professions libérales. De toute façon, on est propriétaire à terme, hein, c'est bien ça. C'est pas, je loue pas pendant 5 ans une œuvre d'art que je vais ensuite restituer. Création en octobre 2009, Paris 17e. www.buy-art.com. Buy, c'est B-A-I-L, hein, trait-d'union-art.com. Ils sont trois aujourd'hui. Il y a Renaud Sudre, Jean Sudre. Alors, Renaud, c'est le bon, c'est le cador dans le domaine du monde de l'art. Et Jean Sudre est donc Édouard qui est avec nous aujourd'hui. Il y a quelques embauches. Non, des embauches prévues, hein, d'ici 2012. Une dizaine tout de même, c'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'ils feront, ces 10 là?
10, alors il y a la partie administrative, la recherche d'objets d'art, le conseil pour le mobilier et des commerciaux.
D'accord.
Des salariés tous ou des freelances?
Des salariés. Et puis les experts, je pense que ce sera plus des partenaires.
Vous vous payez aujourd'hui là?
Non, pas encore.
Pas encore. 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2011 pour 12 500 euros de profit et 1 million d'euros de chiffre d'affaires attendu en 2012 pour 50 000 euros de profit. Voilà. Et puis il y a une ambition d'avoir 10% de rentabilité en 2015. Voilà. Pour une rentabilité estimée pour les mois qui viennent, là.
Alors, c'est un peu dur parce qu'on a pas mal de choses dans les cartons. On ne sait pas si ça va être signé pour 2010 ou pour 2011.
Voilà. 2,5% dans la fiche que vous avez remplie.
Oui, c'est l'objectif qu'on s'était fixé sur le business plan.
Alain Bozetti, allez-y.
Mon avocat loue ou achète en leasing des œuvres d'art depuis déjà très longtemps. Donc je connaissais le système. Et j'ai regardé Artlease, qui existe depuis maintenant 15 ans.
15 ans, exactement.
Votre ambition? C'est quoi? C'est
vis-à-vis d'Artlease.
Vis-à-vis d'Artlease, oui, c'est de sur le marché. Quelle est l'ambition de Buy Art?
Alors, quand on a découvert qu'Artlease avait fait la même chose, ça nous a rassuré de savoir que le marché était un petit peu mature pour ce genre d'achat par rapport aux États-Unis, à l'Angleterre et au Canada, pour qui le système existe depuis des années. On voyait qu'en France, c'est une idée qu'on avait eue de voir que ça existait et fonctionnait, ça nous a rassuré. Deux, je pense qu'il y a la place pour plusieurs acteurs. Et trois, notre ambition, c'est d'être plus important qu'eux, d'avoir une société qui depuis 15 ans, Artlease a atteint une taille qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas développé plus que ça. On aimerait, nous...
Il faut que le chiffre d'affaires, vous avez une idée?
Non, parce qu'ils ne publient pas leurs comptes. En revanche, ils ont une dizaine ou une quinzaine de salariés. J'espère que dans 15 ans, on en aura un petit peu plus.
C'est pas si gros que ça.
Ah non, c'est une petite structure.
Et donc, vous allez les dépasser quand?
Pardon?
En quelle année vous serez à un niveau qui vous permettra de les dépasser?
J'espère d'ici 5 ans. 5
ans.
Oui. Donc, avec un développement international, idéalement.
Oui, alors quelles sont les prochaines étapes, voilà, pour nous donner comme ça quelques clés de comment vous voyez votre développement?
Alors, les prochaines étapes, c'est d'abord de développer notre portefeuille de clients. Deuxièmement...
Concrètement, ça veut dire quoi? Combien de clients aujourd'hui, combien de clients dans deux ans?
Il y a 19 clients aujourd'hui, c'est
aujourd'hui,
ça?
Aujourd'hui, il y a 19 clients. Atteindre 500 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine.
Combien de clients
En nombre de clients, on va dire une centaine.
Sur les 19 clients,
150,
combien étaient des gens que vous connaissiez avant de commencer, vis-à-vis desquels vous saviez qu'ils allaient être des clients assez vite? Alors, des connaissances qui permettent d'asseoir déjà un petit matelas
Du premier cercle, aucun.
D'accord.
Et en revanche, ça a été par ricochet qu'on a rencontré une partie de nos clients, mais qu'il fallait tout démontrer et tout.
Donc, 5 fois plus de clients et pas 5 fois plus de chiffre d'affaires. 20 clients aujourd'hui, une centaine dans un an, mais le chiffre d'affaires que vous prévisiez, ce n'est pas 5 fois plus.
Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos clients sont très disparates entre un client qui voudra une toile à 2500 euros et un autre qui voudra refaire complètement son hôtel. Il est difficile d'évaluer le panier moyen. Oui. Parce que c'est,
enfin, si enfin une ça, moyenne ne serait pas très.
Voilà, ce n'est pas très heureux, il faudrait un écart type. Enfin, pour l'instant, on travaille de manière assez artisanale, donc on prend tous les clients qui viennent et puis ce sera toujours ça.
Ce n'est pas très rassurant. On prend tous les clients qui viennent. Je sais pas, c'est ni valorisant ni rassurant, je trouve, s'il y a des clients qui vous entendent.
Alors, c'est peut-être une faute de langage, mais c'est plutôt qu'on travaille autour de l'objet, de la passion de l'objet. Donc ce sera pour une petite toile d'un artiste en voie de reconnaissance, comme une pièce majeure d'un artiste très connu.
Vous voyez, c'est mon premier feedback, en fait. C'est que je trouve qu'il y a quelque chose de très sain dans votre façon d'envisager, enfin en tout cas de parler de votre activité, qui est que on peut finalement tous, personnellement ou via sa société, devenir l'acquéreur de quelque chose qu'on ne se serait peut-être pas offert autrement. Et je trouve que c'est très intéressant que vous le présentiez avec probablement la passion de l'expert. Ça, pour l'instant, vous n'avez pas réussi à nous rendre tangible pour en quoi vous étiez des passionnés tous les trois. Mais disons qu'on veut bien vous croire. Et de cet œil d'expert, vous en parlez simplement et vous rendez les choses plutôt accessibles à tout le monde. Donc ça, je pense que c'est un bon point. Mais justement, ça serait d'autant plus fort si vous pouviez nous donner... Parce que par souhait de discrétion, j'entends qu'il y a un peu de discrétion peut-être dans votre discours, mais du coup vous êtes un peu entre deux systèmes. Donnez-nous envie, donnez-nous des noms d'œuvres. Si certains clients veulent bien être cités, ça peut être intéressant, voyez, de pouvoir repasser par le biais de leurs expériences à eux. Je trouve que dans votre discours, un peu d'illustration nous ferait du bien.
Alors probablement c'est certain et c'est, pour les clients c'est un petit peu compliqué d'une part parce que il y en a certains pour qui on est en cours de négociation et de les citer, notamment les grandes structures qui seraient un nom qui évoquerait quelque chose pour tout le monde.
Et après vous pourrez les citer, vous pensez que vous allez leur demander.
J'espère que ce sera un outil, un levier de communication. C'est surtout pour ça qu'on cherche à travailler avec ces grands groupes, enfin en partie c'est justement de pouvoir asseoir notre modèle et pouvoir donner confiance à nos clients pour un système qui n'existe pas et qui n'est pas extrêmement développé chez nous. Et d'autre part, on évite, enfin moi j'évite le name dropping et tous ces travers qui empêchent une certaine partie de la population d'accéder au monde de l'art et qui ont l'impression qu'il faut être expert et avoir une culture suffisante pour pouvoir y venir. Alors que
oui,
nous, on veut apporter le monde de l'art dans l'entreprise.
Ah,
et
c'est beau, c'est très beau. Non mais vous risquez pas l'excès de morgue et de suffisance. Je veux dire, naturellement, spontanément, vous êtes quelqu'un de plutôt posé et plutôt sympa.
Merci.
Etc. Voilà, donc ça passe très bien. Donc moi, je pense que vous pouvez vous permettre de mettre le curseur un peu plus de ce côté-là. Sans lâcher des noms pour le système, ou peut-être en faisant un petit peu de pédagogie, ou en prenant les noms les plus connus. Je pense que ça va nous aider tous à nous sentir concernés.
Alors ce que je disais tout à l'heure, on a travaillé pour un chirurgien pour des pièces de Jean Prouvé, donc un designer des années 50 assez reconnu. On a travaillé pour un bureau 18e. On a travaillé pour un tapis Goum d'Iran, donc qui était une pièce très très précise. Donc là, on s'est appuyé sur un expert parce qu'on n'avait pas la connaissance. Et on a travaillé aux côtés d'un expert pour trouver cette pièce et pour la valider, pour la l'expertiser. On travaille pour du mobilier art déco, enfin c'est vraiment très varié. On fera pas du Jeff Koons parce que là c'est hors proportion, même si ça évoque quelque chose chez tout le monde.
Il avait à Versailles récemment. En fait vous êtes un chasseur de, pas un chasseur de primes, il y a chasseur de tête, c'est un chasseur d'objets d'art, c'est ça en fait, hein.
Et tout à fait.
Et on vous missionne, on dit voilà, j'aimerais avoir telle œuvre ou tel type ou des œuvres de tel artiste, et vous les cherchez dans le monde.
Exactement.
C'est hyper aventureux quand même.
C'est l'Indiana Jones en leasing.
Exactement. Alors c'est ça. Après, il y a l'aspect financement. Et parfois, ça devient encore plus compliqué lorsque le client nous dit voilà, j'ai un mur blanc, je voudrais une toile avec du bois et l'inox.
Pardon ?
Et voilà, à nous d'aller chercher les artistes qui ont travaillé
c'est
autour
du vécu,
de ça.
Ça.
Oui, c'est du vécu,
c'est
une expérience.
Ah ben voilà, là on se régale.
Eh oui, mais bien sûr.
Mais est-ce que c'est rentable ? Est-ce qu'il n'y a pas une démission impossible, effectivement ? Est-ce que vous faites valider... Alors, faites-vous payer, si faites-vous payer une mission de recherche. Si vous ne trouvez pas, que se passe-t-il ?
Alors, si on ne trouve pas, tant pis pour nous. En revanche, lorsque l'on trouve, on va voir, avec négocier avec l'entreprise, les différentes prestations qu'on va faire. Ça va d'une mission de conseil, donc on va facturer du conseil pour tout ce qui est recherche des œuvres d'art. Ensuite, nous, on va toucher une commission sur le financement. Donc, on se paye à différents échelons du processus.
C'est transparent pour le client ?
Totalement transparent, oui. Sur la facture, il aura le détail de tout ce qui est... Déjà, en amont, on fait un devis. Et ensuite, sur la facture, il saura exactement ce qui correspond à quoi.
Vous avez sur le site, dans toutes les étapes, c'est assez clair. Hein. Il y a aussi, après, tous les services, il y a plein de choses.
C'est ça, il y a la logistique, quand c'est une œuvre monumentale.
La sécurité,
voilà, la sécurité, les assurances.
Moi, je voudrais conclure en vous demandant si vos clients seraient vos meilleurs commerciaux. Que dirait-il de vous, à votre avis ?
Je pense qu'ils qualifieraient la qualité de la prestation, notre discrétion, notre passion des objets, donc d'essayer de communiquer ça, la passion des belles choses. Et puis après, là, je pense qu'ils sont heureux quand ils sont dans leur espèce de travail, qu'ils ont l'univers qu'ils avaient désiré et voulu pour tout ça à moindre coût.
Ah, super.
Alain, moi, Edouard, je vous donne du crédit sur l'idée, sur l'entreprise, du crédit sur la passion. Vous êtes effectivement très sympa. Une dose additionnelle de confiance en vous me semblerait profitable. Oui, tout à l'heure, par exemple, quand vous avez cherché la référence, je vous imagine pas en train de convaincre un avocat, un chirurgien, et de vendre. Tout à l'heure, quand vous avez cherché la référence du client, j'étais même un peu gêné parce que je sens pas le type qui tous les jours se fait 10 rendez-vous par jour pour aller chercher des clients. Donc, votre voisin aujourd'hui peut-être un projet différent, il émane de lui une confiance. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais vous gagneriez à travailler la confiance en vous et à la clarté du propos.
Alors je pense qu'il y a l'effet radio, mais c'est vrai que tous les matins, on se réveille avec la niaque et l'envie de vendre. On a des rendez-vous, on les multiplie, on y va et on est sur le chemin de la réussite.
BFM Academy 2011. Ils y croient, mais croirez-vous en eux?
Et alors vous allez voir sur le site de Bayard, parce qu'il y a plein de services, hein. Ils font de l'assurance, ils vous installent aussi les œuvres d'art, ils vous reprennent les anciens mobiliers qui vont, je sais pas, peut-être revendre sur eBay. Ils font un peu de tout en fait, ils sont déménageurs, ils sont installateurs, ils font de la restauration, il y a évidemment de l'expertise, hein, avec assurance incontestable délivrée par les meilleurs experts du domaine. Voilà, c'est quand même très très bien expliqué en très très peu de mots, ce qui est toujours agréable. À tout de suite.
BFM Weekend. Sur BFM Radio, le week-end, assumez vos goûts de luxe. Emmanuel Rubin, Karine Verniolle.
Et une émission du côté du numérique, le luxe est-il soluble dans le net ?
Quand les grandes marques fondent leur réseau social, quand les créateurs de mode se font sponsoriser par les internautes, quand les diamants se choisissent sur le web, quand les chocolats se dégustent online.
Et quand le geek devient chic, c'est samedi à 20h et dimanche à 10h sur BFM Radio.
Goût de luxe sur BFM Radio, ajoutez une étoile à votre week-end.
Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge.
Alors que le chiffre d'affaires de l'e-commerce explose, Challenge établit une sélection des sites les plus performants et les plus novateurs pour acheter en ligne voyages, vidéos, livres, déco, musique et profiter des meilleures ventes privées. Les 100 sites clés sont dans Challenge.
Partout en France, BFM Radio, la radio de l'écho. À Nantes, 107.2.
L'économie, c'est quelque chose de simple. Il faut gagner de l'argent, il faut être productif, il faut être compétitif.
Il faut arrêter de se voiler la face.
Exactement.
Découvrez toutes les fréquences de BFM Radio sur bfmradio.fr. BFM Radio, à Rennes, 102.4.
Il faut prendre un temps où on est. Et on n'a plus le choix.
Le capitalisme a fait faillite. On va appeler Jean-Jacques.
À la maison, ou en voiture, en vacances, ou au bureau, partout en France, BFM Radio, toute l'écho, où vous voulez.
BFM Académie 2011, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaré et Alain Bosetti sur BFM Radio.
Et notre dernier, enfin deuxième candidat cette semaine, second candidat même car il n'y a pas de troisième, Léonard Briotte avec Kamea.com.
BFM Académie 2011, la mouche du coach.
Kamea.com. Donc c'est une application internet pour la gestion des processus de ressources humaines. En fait, tous ces métiers existaient mais pas regroupés dans un seul outil. Et lui, il vend cet outil aux professionnels du secteur. Il nous a expliqué comment ça fonctionnait dans la première partie de l'émission. J'avais pas compris, je crois avoir un peu mieux compris. Est-ce que vous aviez compris tous les deux ? Est-ce qu'Alain Bosetti, c'était...
Non, pour moi, c'était pas clair avant. C'est mieux
là, ça va ?
C'est mieux maintenant.
Allez, vous m'expliquez ce que c'est Kamea en.
On se le fait entre nous maintenant.
En 20 secondes, là. C'est quoi Kamea?
C'est un outil pour les DRH qui leur permet de mettre des process en place pour le recrutement, l'évaluation et la mobilité de leurs collaborateurs.
Est-ce qu'on est dans le juste, Léonard Briotte?
On est parfaitement dans le juste.
C'est super, impeccable. Je vous donne quelques éléments.
Vous restez alors.
Je passe en troisième semaine.
Les clients. C'était bien. Hein, vous devriez faire journaliste à la Positive. Des entreprises de 50 à 5000 salariés, donc PME, ETI. 10 clients aujourd'hui, il y a 5 personnes. 330 000 euros de chiffre d'affaires en 2011. 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2012 et des premiers profits qui sont attendus en 2012. Et donc l'objectif, c'est de multiplier par 10 le nombre de clients, d'arriver à 100 clients. À quel horizon?
À 5 ans.
À 5 ans.
Allez. Ça au pif, hein.
Oui. F. Chégaré.
C'est super important pour les affaires.
F. Chégaré, on y va.
Alors, moi, j'avais compris pour la peine.
C'était votre métier, Ève.
Oui, mais. Justement, d'abord, il y a quelques temps.
Les hommes restent les hommes.
Oui, tout à fait. Mais les logiciels ne restent pas les logiciels, justement, enfin, les interfaces. Mais ce que j'attends vraiment de comprendre, et vous m'avez entendu le dire pour votre confrère du jour, j'ai besoin d'illustrations et j'ai très envie que vous me racontiez comment ça se passe. Est-ce que ça fait gagner du temps? Est-ce que ça fait gagner de l'argent? Est-ce que ça fait gagner en qualité? Vous voyez, qu'est-ce qu'on a le plus? Parce que moi, je me souviens de système RH, fait un temps, où finalement, on gagnait surtout en ennui, en travail supplémentaire.
Qu'est-ce que c'était, système RH?
Des
systèmes RH, d'accord.
Vous voyez, qui, de noms divers et variés que je ne citerai pas, qui vous créaient surtout du travail en plus, beaucoup d'ennui, et pas du tout de clarification et d'optimisation. Et pourtant, tout le monde disait que c'était génial et ça coûtait beaucoup d'argent. Alors
bon, évidemment, les technologies ont évolué, donc il n'y a pas que Kamea qui a inventé des choses. Kamea utilise d'abord une plus grande dextérité des utilisateurs qui sont habitués pour leur usage personnel avec Facebook, avec Viadeo, à utiliser des applications Internet. Mais d'ailleurs, c'est une innovation en soi de Kamea, puisque la manière dont nous avons structuré le produit, l'interface, est beaucoup plus proche d'écrans grand public que d'écrans professionnel.
On veut dire que c'est intuitif.
C'est-à-dire que c'est complètement intuitif. On pose régulièrement des questions aux utilisateurs qui disent qu'en gros, j'ai bien aimé cette réponse, en gros, en deux jours d'utilisation, c'est-à-dire qu'il ne dit pas en deux jours de formation, en deux jours d'utilisation. Donc Kamea, c'est un peu comme le vélo, ça s'apprend
en le faisant.
Voilà, j'ai appris à mon dernier fils à faire du vélo ce week-end. C'est en allant sur la selle et en pédalant que ça marche. Le problème, c'est qu'avec la plupart des outils qui existent, on ne sait pas où est la selle, on ne sait pas où est le guidon. Donc, on ne peut pas se mettre en selle tout seul. Avec Kamea, on peut. Donc ça, c'est une des grandes différences sur comment on peut l'appréhender. C'est pas la seule, mais je sais pas si j'ai du temps, vous avez peut-être d'autres questions.
Moi, j'ai une question sur votre modèle économique. Vous facturez comment? Au poste? S'il y a une licence? Comment? Expliquez-nous rapidement.
Alors, on facture annuellement, c'est une des beautés du modèle, puisque chaque année qui commence, là, l'année commence pour nous, puisqu'on est en exercice décalé, on refait le même chiffre d'affaires que l'année précédente. Mais sinon, on facture pas du tout au poste d'utilisateur, on facture aux besoins réels. Vous êtes une très grosse entreprise, mais vous avez besoin de recruter seulement 50 personnes, c'est ce que vous prévoyez, eh bien vous achetez un droit d'ouverture de mission de recrutement pour 50. Vous ferez 55, vous ferez 45, c'est la même chose. Si vous faites 70, on se reparlera. Mais ce que vous payez, c'est pas j'ai 1000 personnes dans mon entreprise ou j'ai 2000 personnes, donc je vais être sévèrement taxé. J'ai un besoin de 50.
Ça coûte combien, par exemple? Là, je veux recruter 50 personnes, ça va me coûter combien d'avoir...
Alors, si vous avez un besoin de 50 recrutements, ça va vous coûter environ 7000 euros par an. En gros, pour faire simple...
C'est assez raisonnable.
Je m'engage sur un an.
Vous vous engagez sur un an, pour faire très simple, hein, donc il y a un prix pour le module recrutement, un prix pour le module entretien annuel d'évaluation, etc. Mais pour faire très simple, dans notre esprit, il faut que le coût additionnel du recrutement unitaire soit, pour un petit volume de 250 euros... pour un gros volume de 50 euros. Donc vous recrutez...
C'est quoi un gros volume?
Un gros volume, c'est... alors, en l'occurrence, ce ne sera pas 50 euros, mais à 300 recrutements par an, on est déjà dans des volumes significatifs, puisque notre cible, on a deux cibles importantes qu'on distingue, parce qu'on distingue les canaux de commercialisation. 250 à 5000 salariés, c'est une cible en soi. Et donc là, une entreprise typiquement de 3000 salariés, bah oui, va faire 300 recrutements, à peu près, on est déjà dans des volumes relativement importants pour nous.
Mmh. Et qui sont vos clients aujourd'hui ?
Alors, il y en a qui ne veulent pas être cités, d'autres qui veulent bien.
Ceux qui veulent bien.
Donc, ce sont des entreprises qui ont aujourd'hui de 250 à 1500 personnes. Mmh. Plusieurs entreprises en des dot-com, donc on aime bien ça, parce que qui peuvent être grandes, hein, comme voyagesncf.com, qui est d'ailleurs, on entend le mot SNCF, mais c'est 450 personnes ou 500 personnes.
Donc c'est plus .com que SNCF.
Voilà, mais on aime bien ça, parce que ça veut dire qu'on correspond bien aux nouvelles manières de travailler. Hein. Mais pas uniquement, d'ailleurs. Alors, donc,
un autre nom, donc voyagesncf, d'autres noms.
Un nom, une entreprise comme Hologram. Hologram, c'est 250 personnes, donc on n'est vraiment pas uniquement tourné vers des entreprises de taille très importante. Ce qui intéresse Hologram, c'est vraiment qu'ils ont plusieurs sites et qu'on leur a permis d'accélérer le processus de recrutement tout en gardant le contrôle. Eux, ils sont contents parce que sur leur site Intel, ils peuvent vérifier que le recrutement se passe bien.
En fait, c'est un outil de flicage. Pour le DRH, il a un outil de flicage de savoir si ses directeurs de site respectent les ratios clés du secteur.
Mais en fait, vous avez une remarque intéressante qui est très française. C'est tout le problème de la... Est-ce que je centralise tout et j'ai besoin de fliquer personne, ou est-ce que je délègue? Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'outils de pilotage.
Bien sûr.
Je vais revenir.
Mais bon, je reformule ma question. C'est un outil de pilotage, entre guillemets, oui, en flicage de la délégation que j'ai laissé à mes directeurs de site.
C'est un outil qui donne des alertes à celui qui utilise. Donc, le directeur de site.
Est-ce que c'est pédagogue, en fait, c'est ça? Est-ce qu'on apprend quelque chose sur le métier de manager quand on s'en sert?
Alors, en effet, quand un manager prend en main l'outil de recrutement, par exemple. Après, on pourrait parler des autres modules, mais déjà, il a à chaque fois du tutoriel. L'outil guide un minimum. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une approbation du descriptif de poste et de profil, alors vous, Eve, qui avez été DRH, vous savez que ça arrive, qu'on fait tout un processus de recrutement, qu'on a le bon candidat. Comment il vaut 75 000 euros? Mais on n'avait pas du tout prévu ça. C'est dommage, c'est juste pour repartir pour 6 mois. Là, l'outil va aussi guider, alerter. Il est le plus rarement possible bloquant. Mais juste en un mot, pour revenir, un outil comme Camera, ça fait passer la DRH ou l'entreprise de l'ère des caravelles qu'ont découvert les Amériques à l'ère d'Airbus. Les deux permettent d'aller aux Amériques. Mais dans un cas, vous avez le barreur, il voit même pas la mer. Il est en bas et on lui envoie des messagers pour dire s'il faut aller à bâbord ou à tribord. De même, s'il faut aborder la voile avant, il faut envoyer un messager pour le faire. C'est comme si dans l'Airbus, vous aviez deux gars dans la queue, un gars sur chaque aile, etc. Là, vous avez un outil de pilotage complet.
Oui, bon, vous voyez, quand vous donnez des illustrations, c'est super. Une petite remarque pour conclure, pour ma part, j'aurais bien aimé que vous nous imprimiez, par exemple, voyez, l'écran, l'interface, pour voir à quoi ça ressemble. Mais vous avez mentionné Facebook et autres, donc j'imagine que c'est un peu dans ce goût là, mais je suis sûre que dans votre discours de communication, vous pouvez montrer des choses, parce que c'est somme toute assez conceptuel, alors qu'après ça devient un outil du quotidien pour les gens. J'aurais aimé voir.
À la radio, c'est plus dur, non?
Non, mais sur le site, c'est vrai qu'il y aura un petit film de démo au début, bien fichu, ce serait pas mal, je ne le cache pas.
C'est vous qui vendez aller chercher les clients?
Nous sommes deux à aller chercher les clients, Cédric et moi-même. Surtout Cédric, d'ailleurs.
BFM Academy 2011, le 25 juin. Il n'en restera qu'un.
Bien, et bien écoutez, c'est à vous de décider entre Édouard Chalmel-Durosier avec Bayart, by-art.com, le leasing d'œuvres d'art pour entreprises et professions libérales, et Léonard Briotte de la Crochet avec www.kamea.com, Kamea.com. Kamea.com. On va se tourner vers nos anciens candidats. Que sont-ils devenus,
oui,
comme toujours, pour terminer cette émission?
On parlait de recrutement.
Et on va appeler Thierry Andrieux. Bonjour.
Bonjour.
Thierry Andrieux était avec nous mi-décembre 2007 avec Humanescence, www.humanescence.com, ça n'a pas changé ça?
Tout à fait.
À l'époque, on vous avait présenté comme chasseur de tête de financiers, de juristes et de fiscalistes. Est-ce que c'est toujours d'actualité?
Alors, c'est pas chasseur de tête, c'est toujours recruteur.
Oui, voilà.
Ça fait 4 ans que Nicolas Dose vous prend pour un chasseur de tête.
Il me challenge avec ce terme de chasseur de tête.
C'est parce qu'on attend que vous vous y mettiez, Thierry, c'est pour ça?
Non, chasseur, c'est un recruteur. Très bon mot, mais on est recruteur. On est très proche de nos candidats, c'est pour ça qu'on est en pleine évolution, et on est aussi des spécialistes des métiers, des fonctions support. Alors surtout sur la finance, compta, gestion, paye, mais sur toutes les, tous les métiers d'assistanat, juridique, ADG, logistique, etc.
Et alors, mon petit doigt m'a dit que vous alliez ouvrir en dehors de Paris.
Alors, c'est déjà fait. Alors, en fait, on est à Paris-Lyon. Hein. Maintenant, Lyon, en plein centre de Lyon, on a 5 collaborateurs. Et sur Lille, très bientôt.
C'est quand bientôt ?
C'est 3 mois, 6 mois. Enfin, le temps de trouver les locaux. C'est très difficile d'avoir des petites surfaces en ce moment.
Alors, quels sont vos besoins aujourd'hui ? Vous recrutez des consultants ou vous faites quoi ?
Alors exactement, ça me permet de prendre la parole sur nos recrutements internes. On est en plein développement, donc effectivement il nous faut encore des consultants, des spécialistes qui aimeraient effectivement toucher au recrutement et qui ont des qualités relationnelles, des développements commerciaux.
Donc ça c'est un appel, c'est bien ça. Hein.
Ça c'est un appel pour le côté interne. Sur le côté candidat, il y a quand même un certain nombre de gens qui cherchent en ce moment. On cherche effectivement de bons comptables, de bons chefs comptables, des directeurs financiers aussi, des assistantes de qualité, des juristes, etc., etc.
Alain Bosetti,
votre manager à Lille, vous l'avez trouvé ?
Écoutez, pas encore, mais j'ai des approches en ce moment. Pourquoi vous...
Non, je veux savoir ce que vous cherchez les locaux, je veux savoir si l'humain est également, le patron était déjà retrouvé.
On a des touches, mais on continue notre approche, parce qu'on prend le temps de trouver la bonne personne.
Vous connaissez Caméa.com ou pas, Thierry Andrieux ?
Pas du tout, mais je vais regarder sur le site.
Vous êtes obligé d'aller voir caméa.com parce que peut-être que ça pourrait vous aider.
Et est-ce que vous utilisez des œuvres d'art ? Est-ce que vous mettez des œuvres d'art dans vos bureaux ?
Ça, j'ai mon associé expert comptable qui fait déjà qui a déjà une galerie dans son propre cabinet. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai pas besoin.
Bon, vous n'avez pas besoin d'œuvres d'art, mais en tout cas, vous avez besoin de recruter les bonnes personnes. Merci en tout cas pour ce témoignage. Bravo à Thierry Andrieux. Déjà, vous, quand même, vous êtes toujours là. On avait fait connaissance en 2007, fin 2007. Donc c'est toujours rassurant de voir que nos anciens candidats sont toujours vivants parce que
ils se développent bien.
Humanessence, donc humanessence.com avec Thierry Andrieux. C'est à vous de voter sur le site de la radio de l'écho, bfmradio.fr, entre Édouard Chalmel du Rosier et Léonard Briotte de la Crochet. À la semaine prochaine.
Maintenant, votez sur bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BFM Académie 2011. Après les infos.